quero, esperons-le, on va parcourir le dernier morceau de notre réflexion. Et c'est une vieille expérience accompagnée de regrets. C'est la fin qui nous fait mesurer combien, après avoir terminé, il nous reste une multitude de choses à dire. Consolons-nous un peu, d'abord en pensant aux raisons extérieures qui nous ont empêchés de mener calmement, posément, à terme, notre recherche. Et d'autre part, nous rappelons de tout ce que, sur le parcours, de façon délibérée, nous avons suscité en anticipation de ce qui allait être fait et de ce qui ne peut pas être tout à fait terminé. Mais en anticipation quand même, nous avons suscité un ensemble de questions et parfois donné des références, les références respectives, sur ce qui nous revient plus précisément aujourd'hui. Il nous resterait donc d'abord, d'une façon abrégée, la prise en considération de la problématique, ou de l'approche plus exactement, religieuse, entre guillemets, de la mort, de ce que nous avons situé dans notre programme sous le titre curieux peut-être, le point nul. Alors que la mort constitue une présence matérielle qui enlève son propre objet et s'échappe, ce qui en elle-même, ce qui constitue la phénoménologie, le point phénoménologique, le plan phénoménologique dont l'approche, la réflexion, éventuellement l'instrumentation revient à l'ensemble des sciences positives, notamment mises en place par la civilisation occidentale. Si par ailleurs la mort constitue un chapitre évasif, mais combien puissant, de la réflexion philosophique, donc une sorte d'absence qui oblige la réflexion philosophique à s'acheminer à l'ombre de cette absence, sans pouvoir totalement la transformer en présence, l'approche religieuse, celle notamment consignée par la tradition religieuse de l'humanité tout entière, est explicitée dans la recherche des sciences religieuses et d'études comparées de religion, pourrait en effet être conçu comme particulièrement irréductible, spécifique. Elle se constitue à partir d'une prise au sérieux de la mort, mais dans un cadre de sens et de réalité qui, en quelque sorte, annule la mort, non pas au sens phénoménologique, cela va de soi, non pas au sens réflexif, c'est l'affaire de la philosophie et apparemment elle n'y réussit pas, mais elle annule la mort en la présentant comme un élément subordonné à une réalité où elle-même n'a pas d'accès. Elle qui règne sans partage la mort sur l'ensemble du monde phénoménologique, phénoménal, ou si vous voulez, pour faire bref, du monde naturel, la voici donc en perspective religieuse, elle réduit à un point nul, car la vision de la religion part d'un autre lieu qui peut se permettre, nous discutons, nous ne faisons pas ici un jugement de valeur, mais tout simplement un constat, qui peut se permettre d'enlever la mort elle-même dans une autre perspective de sens. Et ceci commence en parlant maintenant dans la perspective des sciences religieuses, selon la ligne de regard des sciences religieuses, qui sont des sciences dont le statut est parfaitement reconnu et estimable. Ceci commence par une investigation de plus anciens documents humains dont on puisse disposer sûrement. Et quand je dis sûrement, avec l'appui et la certification des sciences les plus positives, comme par exemple les techniques de datation. De datation. Vous comprenez, il y a un ensemble de techniques modernes qui permettent de dater des fragments du réel, des fragments matériels, avec une précision souvent étonnante. Ce n'est pas seulement le fameux carbone 14, le carbone 14, c'est une analyse physico-chimique des vestiges très anciens qui tout ce qui est matériel contient du carbone, notamment ce qui est organique. Alors il y a un isotope du carbone qui s'appelle carbone 14, qui présente des faibles traces de radioactivité. Et on connaît le rythme de cette radioactivité, ce qu'on appelle en physique la période. Et ce qui permet de dater des choses allant dans le passé à des centaines de milliers de millions d'années distance, avec une précision remarquable. Il y a d'autres moyens de datation, le carbone 14 est déjà un peu dépassé, dont ce qu'on appelle le magnétisme fossile. Mais ce n'est pas un cours de physique que nous faisons ici. Mais je veux vous dire que nous allons donc parler positivement, concrètement, en nous référant au premier document religieux qui puisse nous permettre le démarrage dans notre considération de l'attitude ou de la vision religieuse face à la mort, à partir des documents parfaitement reconnaissables et identifiables. Nous l'avons dit, et ça constitue presque un axiome dans les sciences humaines, là où il y a le tombeau, vous vous souvenez de notre action de départ, n'est-ce pas? Là où il y a le tombeau, là il y a, certains disent Dieu, d'autres disent la religion, d'autres disent, encore plus prudemment et d'une façon neutre, il y a une conception, je ne dis même pas une croyance, mais une conception de l'être humain, au-delà de sa durée strictement naturelle. Ça, c'est un axiome. Le point de départ, aujourd'hui, présenté aujourd'hui comme le plus anciennement repérable, mais qui est incertain quant à l'interprétation, et celui, j'ai les toutes dernières recherches, est celui qui remonte à la civilisation paléolithique dite de Chukutien en Chine, et qui remonte à quelques 400 000 ans avant notre ère. Il y a des études très rigoureuses, très sérieuses. Ça ne nous intéresse pas, si vous voudrez avoir des références, peuvent, oui. Moins 400 000 Chukutien, à un niveau datable, moins 400 000 à moins 300 000. Et leur problème pose des problèmes. Et leur présence pose des problèmes. Car on y trouve des crânes et des mandibules inférieures disposés selon une configuration qui évoquerait une sépulture. Et quand on dit sépulture, on dit donc une relation de sens entre celui qui opère la sépulture respective et celui qui est enseveli. Je dis une relation de sens. Bon, mais là, l'avis des savants est partagé. On ne peut donc pas prendre rigoureusement comme un document indiscutable. C'est jusqu'ici la plus ancienne référence d'un tombeau et donc d'un signe parlant quant à la conception de l'homme, du paléanthropien, comme on dit, de l'homme paléolithique, par rapport à la mort. Ce n'est pas sûr, mais ça pose un problème et il fallait le signaler positivement. Ce qui est indiscutable, ce sont les sites et les documents, entre guillemets, très nombreux, datant de la période du Moustérien, se situant à partir de moins, vous savez comment, aujourd'hui, pour faire bref, on dit moins de 70 000, on n'y dit pas pour écrire. L'année 70 000 ans avant Jésus-Christ. On prend la sémiotique, la technique de température ou des nombres arithmétiques. Moins 30, moins, vous me comprenez, moins X plus X, moins 70 000. Ça veut dire 70 000 ans avant Jésus-Christ. À partir de cette date, nous avons des documents, entre guillemets, nombreux, attestant la présence d'une sépulture, n'est-ce pas ? Il y aurait beaucoup de choses à dire à partir donc d'une observation concrète, d'une étude poussée, et ensuite une interprétation sobre quant à la, si vous voulez, à la phénoménologie, à la signification, ou comme certains disent d'une façon sérieuse, à la poétique de la mort. Poétique de la mort n'a rien à voir avec le verbe. Poétique veut dire l'imaginaire, pas l'imagination. L'imaginaire de la mort, autrement dit, tout l'ensemble d'interprétation, de conception et de vue, de vision concernant la mort, configurée, arrangée d'une façon parlante, significative. C'est l'imaginaire, la poétique de la mort. C'est un terme utilisé dans les sciences humaines. Bien. À partir donc de ces documents très nombreux et bien étudiés. Pardon, l'imaginaire du tombeau, j'ai dit, pas de la mort. Car le tombeau, si on s'y met à réfléchir, n'est-ce pas ? Le tombeau, donc, est pour nous la première inscription. Retenons ce terme que nous prenons quelque peu... peut sonner lugubrement, le tombeau, n'est-ce pas ? Bon, il est la première, donc, inscription au sens le plus matériel possible dans l'écorce de la terre, au sens le plus matériel, puisqu'il s'agit de gratter. Vous me comprenez ce que je dis ? C'est comme une inscription dans l'écorce de la terre, la plus géologique, dans le sol, n'est-ce pas ? D'un signal, d'un signe, ici et par ici est passé et a trépassé un vivant. Et ses semblables en ont inscrit la mémoire sous forme d'une conservation ordonnée de ces vestiges périssables, donc en le situant, lui qui n'est plus là, dans un autre ordre de présence, qui est une présence de quoi ? Nous parlons très, très prudemment, n'est-ce pas ? Une présence peut-être d'anamnèse, de mémoire, une présence de respect, une présence de durée dans l'absence, une présence de communion ou peut-être de communication. Tout ceci révélant, ne fût-ce qu'à l'état de suggestion, de signal, le fait que le tombeau marque comme une béance, une ouverture, béance, vous savez, une ouverture soudaine par où la mort permet l'échapper vers quelque chose d'autre. Nous parlons très prudemment, ça c'est incontestable. C'est clair ce que je dis, n'est-ce pas ? D'où, maintenant, en poussant l'étude, je vous en donne que le résumé, encore plus loin, d'où la situation incontestable, le statut plutôt, incontestable, du vestige du vestige, autrement dit, prenons le terme du corps, le terme le plus général, n'est-ce pas, du corps défunt, en tant qu'un statut ambivalent. Il est sacré dans le double sens, positif et négatif. Autrement dit, d'élévation et de répréhension. Le terme sacré, vous le savez aussi bien que moi, puisque en arabe haram a exactement la même signification, il y a là une ambivalence. Sacré a un double sens. Ce qui est intouchable, parce qu'en relation, comme haram, n'est-ce pas, en relation avec un ordre supérieur, puissant et souvent terrifiant d'existence, le divin, entre guillemets. C'est clair ce que je dis? Ce qui est sacré, consacré. Et aussi, ce qui est sacré est rejeté, répréhensible. Et ça se voit même dans les langues modernes. Quand vous dites sacré pays, c'est tout à fait différent de l'autre expression, c'est un endroit sacré. C'est clair, n'est-ce pas? Il y a donc une ambivalence qui est extrêmement significative, car elle permet de déduire, d'entrée de jeu, je vous donne le résumé très, très rapide, n'est-ce pas? D'entrée de jeu, la double compréhension initiale de la mort dans cet univers religieux originaire, archaïque, si vous voulez. Archaïque au sens d'originaire, non pas au sens péjoratif, n'est-ce pas? Qui était entièrement marqué par les mythes, par les rites et par l'intégration cosmique. L'homme et le cosmos composaient une unité. C'est clair ce que je dis? Nous avons même pas d'ailleurs cette allusion à cet aspect des choses. Donc, ce double aspect, cette bipolarité ou cette ambivalence, car la mort, alors, me permet déjà de considérer un autre plan de l'être, un au-delà de ce monde naturel, où on ne peut accéder qu'en tant que trépassé. Donc, c'est l'aspect, si vous voulez, positif ou supérieur. C'est sacré, même le corps humain est sacré et il exige une sépulture, car c'est à cette condition uniquement qu'il pourra accomplir la dernière finalité de la mort qu'il a atteint, lui, le décédé, celle de lui permettre l'accès à un autre plan de l'être. C'est pour cela que nous disions à un moment donné que dans toutes les religions, sans aucune exception, le corps d'un mort est sacré. Il y a aussi l'autre aspect, cet aspect fondamental, et donner la sépulture, accomplir les rites funéraires, assister, en termes mythologiques ou religieux, appelez-le comme vous voulez, ce défunt dans ce passage vers l'au-delà, c'est un devoir primordial, à quelques conditions près ou à quelques exceptions près, qui nous ramène à l'aspect négatif. Si le personnage en question était frappé d'un anathème, d'une exclusion, que ce soit d'ordre religieux, que ce soit d'ordre civique chez les Grecs. Nous avons fait allusion à Antigone, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez. Donc, d'une sorte de coupure, infligée d'une coupure avec le destin commun, tant qu'il était vivant, à cause d'une faute, d'une culpabilité quelconque, eh bien, les rites funéraires et l'ultime devoir de la descente, de la sépulture, lui était enlevé. Il était laissé à l'état d'exclu même après sa mort. Personne n'avait le droit de l'enterrer. Et dans ce contexte, le deuxième aspect négatif de la mort se laisse déjà entrevoir. C'est que pour la vision religieuse, encore une fois, de archaïque, si vous voulez, mythologique, à ce niveau-là, les choses peuvent être, les termes sont interchangeables, la mort n'est jamais naturelle. La mort n'est jamais naturelle. C'est une action première de la tradition religieuse, encore une fois. Personne ne meurt naturellement. Toute mort est un meurtre. Toute mort est un meurtre, pas au sens physique. Mais on meurt, les humains meurent, et la terre se meurt, parce que, à un moment donné, quelque part, au-delà de la sphère visible, naturelle, accessible, matérielle de l'existence, il y a eu un drame, un traumatisme qui a introduit la mort dans le monde. La mort est toujours une effraction, dans tous les sens du terme. Elle n'a pas sa place naturelle. Elle entre par effraction, en brisant l'être. Et une fois en place, elle se perpétue. Je pense que c'est assez compréhensible, n'est-ce pas? Ça, encore une fois, je vous livre les conclusions, mais croyez-le très bien fondé en études comparées de religion. Alors, donc, quelqu'un qui, la mort étant donc dans le monde, ça c'est fondamental pour la tradition, pour la vision archaïque, pour laquelle, entre parenthèses, vous le savez déjà, le terme même de naturel n'était jamais aussi absolu et exclusif que par la suite, dans nos civilisations modernes. On est en train de revenir maintenant à l'autre bout de notre civilisation, à cette vision de l'intégration de l'homme dans le cosmos. Mais tout était significatif ou révélateur de divin pour l'homme de ce type de civilisation et de ce type de vision. Tout avait un sens transcendant. C'est clair ce que je dis. Et on peut dire qu'à ce point de vue, toute l'histoire du monde, notamment du monde moderne, n'a été qu'une histoire de dissociation entre ce monde-ci et tout ce qui est transcendant, tout ce qui n'appartient pas à ce monde-ci. Entre autres choses, la sécularisation relève de cet aspect-là. Pas totalement, mais en grande partie, c'est la résultante de cette démarche de l'esprit humain, accentuée notamment dans le monde moderne, ça avait commencé avec les Grecs, qui voulaient réduire le réel au visible et rendre l'invisible uniquement, comme disait Malraux, une province de la fantaisie, de l'imagination. C'est clair ce que je dis? Tandis que pour l'homme primordial, tout était donné ensemble. Tout ce qui était visible était porteur d'une signification invisible. C'est pour cela qu'on dans un très beau film de Pasolini, Medea, c'est pour cela que à ce moment-là, l'homme entrait dans le monde poétiquement. Tout lui parlait, tout lui chantait. C'était les eaux du monde, la pierre, les arbres. Nous considérons aujourd'hui qu'il s'agissait de l'idolâtrie. Il ne s'agissait nullement de l'idolâtrie, mais il s'agissait de cette communication directe avec l'ensemble d'un monde qui pouvait parler un langage qui n'était pas seulement celui de la vision immédiate, matérielle. Suis-je clair, est-ce que je dis ? Qui avait une sorte de grâce poétique, d'aura poétique. Les cinéastes, certains cinéastes le rendent encore mieux que les scientifiques aujourd'hui. Je parle de Pasolini, un film assez peu connu, Medea, où il dit ça très bien. Donc, parenthèse fermée. Alors donc, c'est lui qui était exclu déjà dans cette vie, pour une faute quelconque de la communion des vivants, pour une faute religieuse, mais pour une faute civique plus tard chez les Grecs, n'avait plus droit à la sépulture. Et à ce point de vue, il était tué deux fois. Une fois par la mort, qui était le sort commun, c'est clair ce que je dis, et une autre seconde fois en lui empêchant, en lui interdisant l'accès que la sépulture, la béance du tombeau, c'est clair, lui ouvrait vers cet au-delà. C'est clair ce que je dis. Bien. Alors, si vous voulez, résumons très rapidement les trois lignes de force qui pourraient nous faire comprendre dans son ensemble, sans forcer la vérité des choses, la vision religieuse, encore une fois entre guillemets, je parle religieuse pré-chrétienne, ça va de soi, archaïque, traditionnelle, mythique, si vous voulez, quant à la mort, n'est-ce pas? Disons donc que le premier action, c'est celui que nous venons de nommer. C'est l'attitude religieuse de l'homme qui, la première, perçoit, à tort ou à raison, je n'en sais rien, c'est pas à moi de me prononcer, mais je dois le reconnaître, perçoit cet aspect inacceptable de la mort. Elle ne se résigne pas. Toute mort est un meurtre. La mort n'est jamais naturelle, elle relève d'une sorte de catastrophe, d'une sorte de perturbation indue dans l'ordre transcendant, qui se manifeste, bien sûr, à cause de cette connotation, dans l'ordre naturel des choses. C'est clair? Et cette analyse, encore une fois, scientifique, du tombeau, me permet, à travers la catégorie du sacré, de déceler très nettement cette première intuition de la tradition archaïque, disons, concernant la mort. C'est clair? Deuxième, très importante, résultante pour l'attitude religieuse de ce premier caractère indu, inacceptable, à laquelle la religion ne se résigne pas, au contraire de la philosophie, au contraire de la science, c'est clair, de la mort, c'est que la mort, ainsi entrée par effraction dans le monde, contamine tout l'ordre cosmique dont l'homme est en quelque sorte le centre conscient et le responsable rituel. C'est par ces rites que l'homme communique et entretient cet ordre cosmique. Donc, pour situer la mort, l'homme de cette attitude-là, ou de cette tradition-là, aura recours à des symboles, à des catégories de connaissances et d'actions que nous appelons globalement mythe et rite, prélevé sur l'ordre cosmique, comme par exemple les grands rythmes d'apparition et de disparition, les rites agraires, végétaux, rythmes, pardon, d'abord, agraires, ou même avant, astronomiques, les astres qui apparaissent, qui disparaissent, qui parfois passent par des phases. C'est bien ce que je dis, la Lune, Vénus, ainsi de suite. Ensuite, les rythmes proprement terrestres, les grands rythmes agraires de la végétation, de la météorologie même, si vous voulez. D'autres instances, parfois très subtiles, les minéraux, et ainsi de suite, nous n'avons pas à dire. Mais ce qui est impressionnant, ce qui est important, c'est que la mort de l'être humain, nous sommes en deuxième action toujours, elle-même se situe à l'intérieur d'un cycle, comprenez, qu'on pourrait appeler mort-renaissance, mort, et retour, disons, à la vie. Que ce retour se situe dans un autre plan de l'être, qui, dans les religions, nous le prendrons bientôt, on ne peut plus parler de détails, dans les religions plus anciennes, vous pouvez vous rappeler de Hades, chez les Grecs, Amenti, l'île, les îles heureuses, ainsi de suite. Ça ne nous intéresse pas, nous n'avons pas le temps, mais ce serait très intéressant quand même, très beau de le voir. Donc, il y a un retour à l'existence de celui qui s'efface de l'existence humaine, qui est effacé de l'existence terrestre. Il y a un retour, tout comme la végétation, tout comme, c'est une analogie, ce n'est pas une causalité, ce n'est pas une explication, n'est-ce pas? Tout comme les grands rythmes cosmiques, les grands rythmes terrestres, saisonniers, me permet de constater cette disparition et ce retour à l'être, je peux éventuellement donner une interprétation quant au sort, quant au parcours du mort humain qui se trouve dans le tombeau et qui, lui aussi, ne disparaît pas totalement de l'être. Il s'efface d'un certain plan de l'existence qui est celui visible, matériel, terrestre. C'est clair ce que je dis? Et il peut retourner à la vie ailleurs. C'est tous les mythes grecs, vous savez, de Proserpine, de Déméter, qui est à la fois la déesse de la végétation, Dea Mater, veut dire la mère de la terre, la grande mère en grec, et qui, six fois par an, est captive de Hadès, de Pluton, aux enfers, du dieu de la mort, c'est clair? Mais elle revient, ainsi de suite. Ce qui nous intéresse, en transposant ceci en termes quelque peu philosophiques, si vous voulez, c'est que ce cycle comporte un passage. Voici que déjà la mort est annulée à ce niveau-là, d'une lecture première, archaïque. C'est clair ce que je dis? Elle ne fait que marquer le passage d'un niveau de l'être à un autre. Et ce passage ne s'arrête pas, il se continue par ce qu'on pourrait appeler, et qui est devenu effectivement une catégorie extraordinaire dans l'histoire de l'esprit humain, un voyage, un itinéraire. La mort, dans cette vision, débouche sur une itinérance. Cet accès à l'au-delà se présente sous la forme d'un cheminement ayant ses règles propres, son tracé, ses problèmes, ses difficultés, ses épreuves qui sont exprimées dans cette poétique de la mort, dans cette symbolique de la mort, et qui, plus est, permet à ceux qui avaient communié dans la vie terrestre avec le mort, c'est ça, le défunt, de l'accompagner symboliquement et efficacement dans leur conception, de l'accompagner dans ce voyage, à travers les rites, à travers les incantations, à travers un ensemble de gestes, toute une gestuelle. C'est clair ce que je dis? Sans cela, nous n'aurions, ne fût-ce que sur le plan purement esthétique et culturel, nous n'aurions jamais eu tout un grand domaine de la culture mondiale, parlons pas Homère seulement, mais les tragiques grecs, mais la philosophie, Platon nous l'avons vu, mais un tas d'œuvres littéraires qui se prolongent jusqu'à nos jours. On sait, entre parenthèses, c'est pour fixer les idées, pour vous montrer jusqu'à quel point ce que nous sommes en train de considérer ici s'inscrit dans un réel continu de l'être humain, ne fût-ce qu'à travers la culture. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les romans d'initiation, la littérature d'initiation. Est un décalque, une imitation de cette première vision archétypale du voyage du défunt dans l'au-delà. Voilà, vous avez entendu parler de, comment s'appelle, Goethe, par exemple, Wilhelm Meisters, Lehrjahre, les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, Novalis. Les critiques littéraires reconnaissent aujourd'hui que Stendhal et Balzac, Balzac plus consciemment, puisqu'il était toujours ouvert au surnaturel, au mystérieux, connaissait Peau de Chagrin, Colonel Lambert, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais Stendhal moins, avec ce voyage de Lucien Rubempré, de comment s'appelle son fameux Rastignac, je ne sais pas comment, c'était une imitation sécularisée de cette réalisation de soi, mais cette fois-ci à l'intérieur du milieu social, qui était à l'époque pour eux le milieu bourgeois. On voulait devenir un homme en conquérant Paris, tout comme les héros de Homère ressuscités aux Champs-Élysées. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis clair, n'est-ce pas? On sécularisait cette idée du voyage de l'être, l'être qui n'est pas accompli tant qu'il n'est pas passé par ce cycle du devenir, mort et résurrection, mort et renaissance plutôt. Goethe avait cette fameuse phrase, « Un solang du has nie das Stirb und Werde, du bist nur ein troubler Gast hier auf dieser Erde. » Tant que tu n'as pas réalisé ceci, mort et deviens, tu n'es qu'un hôte pitoyable sur cette terre. Mort et deviens. C'est clair ce que je dis? On ne peut pas vivre sans accepter de mourir pour devenir. Tout ceci trouve sa racine, nous parlons très rigoureusement, dans cette première intuition de la tradition religieuse, archaïque, mythologique, appelez comme vous voulez, du cycle mort-renaissance. Que cela se situe dans un autre plan de l'être, les Champs-Élysées, l'Empire, je ne sais pas quoi, la Amenti pour les Égyptiens, les antiques Égyptiens, ainsi de suite, par un certain retour qui était à la fois espéré et redouté du défunt parmi les vivants sous forme de visitation spectrale, ainsi de suite. Vous comprenez? La peur, il fallait conjurer, apaiser les âmes des défunts pour ne pas retourner et demander aux vivants un supplément de vie. Ça, vous avez au cinéma avec le comte Dracula, c'est pas? C'est le dernier stade de cette. Mais c'est un roman aussi. Oui, c'est un roman, une nouvelle très significative. Bien. Donc, il s'agit là d'un cycle qui suppose un cheminement, une itinérance du principe immortel, et en passer par la mort du défunt, n'est-ce pas, jusqu'à son apaisement total. Nous parlons aussi plus prudemment que possible. Ce qui est très important, il faut retenir ceci, ce qui est très important, c'est que ceci ouvre la communication dans cette perspective entre l'au-delà de la mort, qui est réservé désormais à l'itinérance, Orphée, Eurydice, et ainsi de suite, et l'en-deçà, où sa communauté est encore présente, mais qui peut l'accompagner par un ensemble significatif de rites et de gestuels. C'est clair, je dis? Troisième, très intéressant, aspect, c'est que de cette perspective, donc, c'est que au-delà du cycle mort-devenir, ou mort-retour, ou mort-renaissance, il ne s'agit pas de mort-résurrection au sens absolu, c'est là que nous employons ces termes variés mais convergents, il y a une vision très nette d'une immortalité acquise définitivement. Il y a, autrement dit, la possibilité qui est notée depuis assez tôt à travers les documents dont nous disposons, pour l'homme de la vision religieuse, d'accéder au-delà du cycle mort-devenir à une immortalité stable auprès du divin. Cependant, tout au début de l'expression de cette troisième vue, bien sûr, c'est nous qui interprétons d'après les éléments dont nous disposons, nous autres hommes modernes, mais sans trop nous tromper, me semble-t-il. Bien sûr, tout au début de cette mise en place de la vision d'une immortalité stable, celle-ci n'était réservée qu'à des êtres d'élite, le héros. Le héros. Ou le demi-dieu. Celui qui était marqué déjà depuis sa naissance de par un élément divin, surhumain, transhumain. Et on peut interpréter, ça a été fait souvent, toute la mythologie antique, pas seulement grecque, mais autre, dans cette perspective du... Démiurge, ce n'était pas... Le démiurge, c'était carrément divin. Le démiurge, c'était un niveau, une fonction du divin. C'était la divinité qui créait, qui mettait en place le monde en tant que création. Car la divinité suprême ne créait même pas. C'était un démiurgos, le dieu, n'est-ce pas? Le dieu créateur, si vous voulez, dans la conception, dans la créateur, pas dans le sens absolu, mais celui qui tirait le monde du chaos au cosmos. Chaos, le chaos étant le mélange indistinct, et le cosmos étant l'ordre. Cosmos veut dire ordre ou beauté, institut cosmétique. C'est clair? Alors le démiurge n'avait pas une fonction absolue, une créatrice absolue, dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui, mais une fonction régulatrice, et il était carrément divin. C'est clair? Mais ça, c'était le demi-dieu, Hercules, par exemple. Héraclès, par exemple, n'est-ce pas? D'autres, comme Achille, qui, le héros suprême qui avait été protégé, obombré, pris à l'ombre du divin, mais pas totalement. Il lui restait un talon vulnérable, ainsi de suite. Tout ça, c'est une interprétation fascinante et très révélatrice. Il y a d'ailleurs des études exceptionnelles là-dessus. Bien. Mais, donc, on voit percer dès le commencement, des documents que nous avons, n'est-ce pas, cette autre, troisième vision, celui d'un accès direct et assuré, stable, à l'immortalité auprès du divin, par une sorte de réintégration dans le divin, au-delà de cette seconde forme, cette seconde, deuxième formule du cycle. C'est clair ce que je dis. Voilà, pour terminer avec quelques éléments de référence, ou même pas d'évocation, je ne peux pas appeler ça référence.